Le journal présenté par Valentine Joubin. Bonjour Valentine.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Ils sont militants, écrivains, philosophes ou simples citoyens. Cet après-midi, ils seront réunis sous le slogan « Tous Charlie !» Point d'exclamation. Une journée de débat organisée à Paris, au Théâtre des Folies Bergères, en hommage aux 12 victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. C'était il y a 3 ans, presque jour pour jour, le 7 janvier 2015. 3 ans après donc, la juge en charge du dossier espère boucler son instruction dans les prochains mois. Probablement à l'été, avec la perspective d'un procès peut-être dès l'année prochaine. Un procès, Charlotte Pirret, qui se fera sans les auteurs principaux.
Ils sont 14 à ce stade, mis en examen dans ce dossier et donc possiblement renvoyés devant la cour d'assises spéciale d'ici la fin de l'année. Mais ils ne constituent que le deuxième, voire troisième cercle, fournisseurs d'armes, de matériel, jusqu'aux voitures qui ont servi aux terroristes pour se rendre sur les lieux de leurs attaques. Mais les frères Kouachi et Hamedi Coulibaly, eux, sont morts lors des assauts des forces spéciales contre les lieux où ils s'étaient retranchés. Ils ne répondront pas de leurs actes et ont emporté avec eux certaines réponses. Si les enquêteurs ont désormais pu retracer l'ensemble de leur parcours, jusqu'aux journées sanglantes de janvier, identifier les sources de financement de ces attaques dont le coût est évalué à 26 000 euros et pour lesquelles les terroristes ont notamment eu recours au crédit à la consommation ou au commerce au noir. Si les failles du renseignement dans le suivi de ces individus déjà connus pour leurs accointances avec la mouvance islamiste ont été révélées, reste la question des commanditaires dont ce mystérieux interlocuteur en Syrie qui transmet ses instructions à Hamedi Coulibaly. Mais les moyens de cryptage haut de gamme utilisés par les terroristes n'ont pas permis aux enquêteurs d'en savoir plus.
L'attaque de Charlie, puis celle de l'Hypercacher et de Montrouge, ont marqué le début d'une vague d'assassinats djihadistes sans précédent en France. Des attaques du 13 novembre à Paris et Saint-Denis à celle du 14 juillet 2016 à Nice, puis l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray qui soulève de nouvelles questions depuis 24 heures. L'assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet 2016 aurait-il pu être évité? Les services de renseignement ont-ils transmis toutes les informations? C'est ce que va devoir déterminer l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, sur demande du parquet de Paris. Le site Mediapart affirme que la préfecture de police de Paris a dissimulé une note évoquant un passage à l'acte imminent des auteurs de l'attaque. En Égypte, une semaine après une nouvelle attaque meurtrière contre la communauté copte, les chrétiens vont une nouvelle fois fêter Noël endeuillé ce soir. Les autorités égyptiennes, de plus en plus pointées du doigt pour leur incapacité à prévenir les attaques terroristes, ont prévu des mesures de sécurité renforcées. Correspondance au Caire de François Humfer, Katadji.
Trop tard, le mal est fait, peut-on entendre dans le milieu chrétien. L'organisation État islamique a l'habitude de frapper une semaine avant les grands événements religieux. En novembre dernier, les musulmans soufis fêtaient la naissance du prophète, une semaine après le massacre de la mosquée de Bir al-Abd. Plus tôt dans l'année, un double attentat à Alexandrie et Tanta en avril a frappé la communauté copte, là encore une semaine avant Pâques. L'idée est donc bien de gâcher les fêtes, créer la peur, le doute et la division. Si le doute et la peur ont indéniablement pénétré les esprits, la société égyptienne ne s'est en revanche pas divisée devant la multiplication des attaques terroristes. Les chrétiens ne désertent pas les églises, bien au contraire, et les musulmans sont nombreux à apporter des signes de soutien. Cette année, plus de 100 chrétiens ont été tués dans des attaques terroristes. Ce Noël sera encore une fois sous haute surveillance, portique de sécurité, cordon policier, fouilles. Mais est-ce que ce sera suffisant? Dans le Nar Sinaï, les djihadistes montrent chaque jour des preuves de leur présence et même de leur puissance. Et face au pouvoir répressif, injuste et violent du régime égyptien, les djihadistes de l'EI ont toutes les cartes en main pour déstabiliser la région.
François Humfer Katadji au Caire pour France Culture. La reprise du dialogue entre les deux Corées aurait-il déjà porté ses fruits? La Corée du Nord participera vraisemblablement aux Jeux Olympiques d'hiver qui ont lieu chez son voisin du Sud le mois prochain. Déclaration prudente du représentant nord-coréen au Comité international olympique, le CIO. Hier, les deux pays se sont mis d'accord pour tenir des discussions. Une première depuis 2 ans. Au Honduras, c'est un revers pour l'opposition du président. Au président Juan Orlando Hernández. Elle avait déposé un recours pour faire annuler la réélection du chef de l'État. Mais tout à l'heure, le tribunal suprême électoral a rejeté cette demande en nullité. Le TSE estime qu'il n'y a pas de preuve de fraude. Emmanuel Macron se rendra en Corse le 6 février, soit 20 ans, jour pour jour après la mort du préfet Claude Erignac, assassiné à Ajaccio. Par ailleurs, les élus nationalistes corses et Jacqueline Grouot et Jacqueline Gourault, la madame corse du gouvernement, ont engagé hier un dialogue qualifié de part et d'autre de constructif. Mais la co-officialité du français et du corse reste un point d'achoppement. Cette revendication des indépendantistes et nationalistes n'est pas envisageable, a tranché la ministre. Aux États-Unis, alors que les proches de Donald Trump tentent de défendre la santé mentale du président, le livre dans lequel le président américain est traité de débile ou de fou par des membres de son parti lors de la campagne, Fire and Fury, le feu et la colère, se vend très bien. Les avocats du président des États-Unis ont tenté de le faire interdire, mais il est bien sorti hier. Le livre, écrit par le journaliste Michael Wolff, raconte les coulisses de la Maison-Blanche et une première année de mandat dans un chaos quasi permanent. Les menaces d'interdiction ont eu en fait l'effet inverse. Aux États-Unis, le livre est en tête des commandes sur Internet. Écoutez Bradley Graham, il est le patron de la librairie Politics and Prose à Washington qui hier a vendu sa centaine d'exemplaires en moins de 15 minutes.
Ça arrive parfois avec les livres de Bob Woodward, par exemple, qui sont très demandés, vous savez, ceux de J.K. Rowling, la série Harry Potter, mais c'est plutôt inhabituel qu'un livre devienne une telle sensation en une seule nuit. Personne n'avait vraiment anticipé cela. Après, je pense qu'en surréagissant de la sorte à la sortie du livre, Trump a provoqué l'effet inverse. Tout le monde a été plus intéressé par cet ouvrage. Vous me demandez en quoi ce livre est important? Eh bien, je pense que c'est une preuve de plus de l'aspect, comment dire, peu ordinaire de cette présidence à laquelle nous sommes confrontés. Je pense que si vous êtes un supporter de Trump et que vous avez décidé de lire ce livre, eh bien après, il vous faudra vraiment trouver une bonne raison pour continuer à le soutenir.
On termine par quelques mots de météo et c'est la pluie et les nuages qui domineront aujourd'hui presque partout en France. Le thermomètre affichera entre 2 et 7 degrés ce matin jusqu'à 12 en Méditerranée. Cet après-midi, il fera entre 7 et 12 sur la plupart des régions, jusqu'à 18 en Corse.